Je suis documentaliste de formation. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, mais beaucoup, à l'Institut national d'éducation populaire. Donc je rassemblais de la documentation pour des gens qui étaient, on n'appelait pas encore des animateurs, mais enfin bon, qui sont devenus des animateurs, des maisons de jeunes, de centres culturels, pas tellement de centres culturels, des centres éducatifs, avec tout ce développement de l'éducation populaire qui a eu lieu dans les années 65-70. Après, pour ceux qui sont plus anciens, une étude du ministre de la Jeunesse et des Sports, Missoff, qui avait fait un gros questionnaire sur les jeunes. Et donc c'était pour répondre justement aux besoins des jeunes. Sachant que l'éducation populaire fonctionne aussi pour les adultes. Donc j'étais là-dedans et je me suis aperçu, étant là-dedans, recevant des associations, etc., en leur demandant toujours des documents, que finalement, la Ligue de l'enseignement, qui était la plus ancienne quand même association, n'avait pas de vraie histoire sur son début. Alors j'ai fait, avec le corps, j'étais responsable de la Ligue de l'enseignement, et puis l'accord, non pas tellement, de ma direction, j'ai fait une étude à l'école des hautes études en sciences sociales pour développer, rechercher les sources de la Ligue de l'enseignement à partir de la presse et de tout ce qui était écrit. Pas à partir des souvenirs, il y avait des souvenirs de gens qui avaient écrit, mais c'est tant que j'y suis retournée. C'est vrai qu'à l'époque, leur seul moyen de communiquer, c'était de communiquer à la presse. Donc dès qu'ils faisaient un pas de travers, c'était raconté. Et donc j'ai exploité cette presse, j'ai trouvé des choses extraordinaires, comme c'était en même temps la période de l'ordre moral, j'ai étalé la presse de la préfecture de police, enfin tout ça. Et j'ai donc pu voir que, en effet, les bibliothèques avaient un rôle très important au début. Moi je connaissais les lieux d'enseignement en 1970, il n'y a plus de bibliothèque. Hein. Donc voilà, et là j'ai découvert que c'était en effet le début. Ce qui fait que ça m'a questionné. J'étais un petit peu historienne, pas complètement historienne, donc je me suis dit, comme j'avais envie d'évoluer dans ma carrière, c'est vraiment ça, je voulais devenir enseignante universitaire, donc j'ai décidé de faire une thèse, en disant après tout, voir un petit peu qu'est-ce que c'était que ces débuts de la Ligue d'enseignement, et donc le rôle de Jean Massé, et j'avais vu bibliothèque. Alors, le problème, c'est qu'à l'époque, faire une thèse en sciences de l'information, si on ne mettait pas de l'informatique, ça ne marchait pas. Donc, j'ai fait une thèse d'histoire. Qui m'a validé, après je suis devenue maître de conférence en sciences de l'information. Hein. Mais j'ai fait une thèse d'histoire. En directrice de thèse, j'ai eu Michel Perrault. Michel Perrault qui m'a récupéré après des histoires compliquées, parce que le premier qui m'avait suivi c'était Jacques Ozouf, et Jacques Ozouf a fait une grosse attaque et était incapable de faire. Donc c'est comme ça que Mona Ozouf, qui m'a suivi pour mon DEA, m'a dit après, bah, allez donc voir Michel Perrault. Voilà. Et je me suis retrouvée avec Michel Perrault. Alors moi j'étais déjà une dame, hein. Elle m'a laissé me débrouiller, c'est vous qui savez. Alors, elle validait tout le côté formel, un petit peu les trucs historiques, bien sûr, beaucoup, hein, j'exagère. Mais c'est vrai qu'elle m'a laissé, elle m'a dit, moi, je ne sais pas. Voilà, j'ai fait la thèse, mais j'ai continué à être documentaliste. Et puis, j'ai commencé à faire de la formation, donc j'ai fait des formations de documentaliste. Je suis venue maître de conférence, j'ai été nommée à l'ENES de Cachan, et puis à l'Institut National des Techniques de la Documentation. Donc, j'ai complètement laissé tomber. Non pas à l'éducation populaire, je savais que c'était toujours dedans, mais moi j'étais, le numérique s'annonçait, il y avait le Minitel, vous voyez, c'était le début du Minitel, etc. Donc moi j'ai travaillé sur qu'est-ce que ça fait le Minitel quand on traite des documents, et maintenant j'en suis à réfléchir qu'apporte la société numérique sur tout ce qui est documents. Mais il se trouve que j'ai des collègues du CNAM, puisque l'Institut National des Techniques de la Documentation et le Conservatoire des Arts et Métiers, qui m'avaient dit « tu devrais raconter un peu ce que tu dis sur l'éducation populaire, parce que c'est pas du tout, sur l'éducation des adultes, c'est pas du tout ce que racontent les autres collègues d'un groupe de recherche de là-bas. » Alors je dis « à ma retraite ». Alors j'ai pris ma retraite, elle m'a dit « tu viens avec nous, alors qu'est-ce que c'est l'éducation populaire ?» Donc j'ai fait mon topo là-dessus, et on m'a dit « mais c'est passionnant ». Tu l'as publié ? Je dis non. Bah donne-nous le fichier. Alors j'ai répondu, mais en 64, il n'y avait pas de fichier. J'ai fait taper ma thèse. Donc ça a quand même été un peu long, l'affaire numérisée. Donc la décision de faire un livre avec ça a été prise. J'ai traîné beaucoup des pieds. Mais bon, j'étais vraiment à la retraite, j'avais fini ce que j'étais en train de faire. Je m'intéressais toujours au numérique, mais moins scientifiquement, disons. Donc je me suis lancé là-dedans, 3 ans. Un an complet d'écriture, parce que finalement, passer d'une thèse à un livre, c'est pas évident. Et en plus, j'avais écrit ça quand même il y a 34 ans, 35 ans. Donc il a fallu que je recherche tout ce qui était écrit dessus. Et ce que je racontais tout à l'heure, à ma grande colère, personne n'avait vu ce que j'avais écrit. Enfin, il l'avait vu, mais personne n'avait repris. J'étais citée deux fois, mais sinon, on m'avait appelé deux ans après pour participer à un colloque, mais après, plus rien. Donc, dit, tout ce que j'ai écrit est toujours valable. Voilà, c'est comme ça que vous êtes maintenant avec un livre qui sort pour quelque chose qui a été terminé en 84, qui est toujours d'actualité, puisque l'avantage de l'histoire, c'est que ça ne vieillit pas. Comme personne n'avait travaillé dessus, il n'y a pas eu d'autres hypothèses, etc. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé sur ce sujet, avec l'idée de voir. C'est vraiment par Jean Massé. Hein. Pourquoi il s'était intéressé aux bibliothèques populaires? En réalité, en 1848, vous savez qu'il y a une grande révolution en France, que les Républicains ont eu pendant un certain temps le droit de parole, qu'en particulier l'Assemblée a voté le suffrage universel. Et il y a un certain nombre de gens, dont Jean Massé, qui étaient furieux en disant « c'est pas possible, les gens ne savent même pas lire ». Qu'est-ce que ça veut dire, suffrage universel? Ils ne parlaient pas des femmes, hein, qui n'avaient pas le droit de voter de toute façon. Et donc, il faut qu'on trouve un moyen pour éduquer les citoyens. C'est pour ça que même mon bouquin, il s'appelle « Pour éduquer les citoyens et non plus les adultes », comme j'avais mis au début. La scolarisation avait fait des progrès, mais des gens qui allaient à l'école jusqu'à 12 ans, puis après qui ne lisaient plus, ils n'avaient plus aucun moyen de s'instruire pour savoir pour qui voter. Hein. Et donc, c'était vraiment la première raison, permettre aux gens de participer au suffrage universel. Et alors lui, en tant que révolutionnaire, a été expulsé de Paris, la région parisienne, il s'est retrouvé en Alsace. Alors, Massé, il se disait fils de camionneur, c'est en effet le fils d'un transporteur, sa mère était femme de ménage. Il a fait ses études en province, et son instituteur, à l'époque où il faisait ça, on dit « il faut qu'il continue ce garçon ». Donc il s'est débrouillé pour lui obtenir une bourse. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au lycée-collège, et qu'il a même commencé l'école normale. Hein, il a été au collège Stanislas, qui préparait à l'école normale, pour être enseignant. Mais, problème, c'est qu'en 1830, l'école normale était fermée. Alors, c'était visiblement quelqu'un qui savait très très bien passionner les gens, et qui avait la fibre pédagogique, avec aussi bien les enfants que les adultes. Hein. Alors, c'est vrai qu'on disait aussi à l'époque que les adultes étaient des grands enfants. Il a toujours refusé ça. Hein. Pour lui, les adultes sont des adultes. Et les enfants ne sont peut-être pas si enfants que ça. Il était journaliste aussi. Il était journaliste à un journal qui s'appelait La République en 1848. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a été évincé. Et donc, se retrouvant perdu en Alsace, là, il a été recruté, hébergé par la mademoiselle Coralie de Véronnet, qui dirigeait un institut de jeunes filles à Böblenheim, en Alsace. Alors il s'est mis à écrire des livres pour ses élèves, Les serviteurs de l'estomac, L'histoire d'une bouchée de pain, qui ont été des succès, parce qu'il expliquait toute la digestion par l'histoire d'une petite fille qui avalait une bouchée de pain, comment, qu'est-ce qui se passait, etc. Les serviteurs de l'estomac, il a écrit un certain nombre de choses comme ça, et il a décidé un jour qu'il fallait ouvrir une bibliothèque, et il a déposé 10 volumes chez le maire, en lui disant, voilà, fournissez-moi un local, et moi j'ouvre une bibliothèque. Le maire a réuni le conseil municipal, ils étaient d'accord, donc ils ont versé une subvention, et c'est comme ça que la première bibliothèque populaire de Jean Massé, hein, donc c'est la Ligue, a ouvert. Mais entre-temps, il s'était renseigné, et évidemment, il avait vu cette bibliothèque-là.
Voilà. C'était à quelle date là, qu'il l'a ouvert, alors, à ce moment-là, à peu près?
62. Il connaissait les bibliothèques d'Amine d'Instruction, il connaissait Girard, enfin il connaissait. Je ne crois pas qu'ils se soient rencontrés, mais il connaissait, il en parle, hein, dans son histoire, il en parle d'un ouvrier, et ce qu'il faisait bien, c'était un typographe qui crée une bibliothèque. Ça, pour lui, ça correspondait tout à fait à ce qu'il voulait faire, bien sûr. En 1861, il fait connaissance des bibliothèques d'Amine d'Instruction, il voit le rôle de Girard. Girard qui était appuyé quand même par un certain nombre de gens, donc il rencontre ces gens-là, il voit Perdonnet, il voit tous ces gens-là. Et donc il décide de faire une bibliothèque, mais lui il appelle ça une bibliothèque communale, parce qu'il veut absolument, dans les campagnes, que la municipalité prenne des choses en charge. C'est ce qui différencie aussi d'ici, où en effet il y avait une autonomie. Lui, il est autonome, mais avec un appui communal. C'est pour ça que ça s'appelle la Société des bibliothèques communales. Et ce n'est pas une bibliothèque populaire. Hein. Il n'a jamais alors pris le nom de bibliothèque populaire. Donc, avec l'idée, de quoi est-il question d'ailleurs dans l'établissement des bibliothèques populaires, de relever le niveau intellectuel des classes laborieuses. Il veut ouvrir des bibliothèques pour que les gens les enfants, mais les adultes aussi, bien sûr, puissent lire. Il a écrit un certain nombre de consignes, de conseils qui sont assez... Maintenant, on dirait touchant, mais c'était assez intéressant parce qu'en même temps, il agit comme pédagogue. Vous faites comme ci, vous ne faites pas comme ça, quoi. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les livres soient à la disposition d'un certain nombre de gens, mais que les gens payent quelque chose pour avoir le droit aux livres. De toute façon, que les livres, mais ça, Girard disait la même chose, hein, que les livres soient un peu la propriété des lecteurs. Et parce que ce qu'il voulait, c'est que, évidemment, ces fameux livres, quand il a créé sa bibliothèque, c'était 10 livres sur une planche dans un couloir, donc il fallait que les livres, les gens puissent les emprunter. Donc, pour que les gens puissent les emprunter, il faut donc qu'ils soient un peu responsables, qu'ils s'en sentent un peu propriétaires. Il dit même le nom propriétaire des fois. Ça rejoint exactement ce qui se disait là. Et ce qu'il avait vu, donc, il lance sa bibliothèque comme ça, et immédiatement, dès qu'il fait quelque chose, article dans le journal. On connaît cette histoire-là, pourquoi ? Parce qu'il y a des articles, alors il écrivait les articles, les journaux avaient qu'à prendre l'article, il était tout fait. Hein. Il avait été journaliste. Hein. Et donc, tous les journaux d'Alsace ont parlé de cette création de bibliothèque. Résultat, partout, il reçoit des lettres, en général d'ailleurs, d'industriels protestants, des gens qui ont de l'argent et qui veulent aider leurs ouvriers et qui demandent comment faire. Ça a été, en un an de temps, à une vitesse vraiment grand V. Parce qu'il crée sa bibliothèque, et l'année d'après, il crée la Société Bibliothèque Communale du Haut-Rhin, c'est-à-dire qu'il dit, une bibliothèque toute seule, ça ne veut rien dire, il faut que ce soit un ensemble de sociétés. C'est là qu'il différencie vraiment de la bibliothèque amie d'instruction, où chacun est autonome. Tandis que là, on se donne des conseils, et on s'aide, et éventuellement on devient une société. Et cette Société Bibliothèque Communale du Haut-Rhin, elle est devenue après la Société Bibliothèque du Bas-Rhin, et il y en a eu qui se sont répandues, alors pas dans toute la France. L'Alsace, évidemment, et la Lorraine, mais il y en a eu dans des petits pays. Il y avait des petites communes qui, prenant l'exemple, allaient voir leur maire et puis disaient « Bon, alors on fait. » Puis comme le maire, c'était souvent le notable du coin, c'était assez pratique. Alors, il y avait toute une façon de faire. Pour ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est appuyé sur la Société Franklin. Dès que sa bibliothèque a été ouverte, il a écrit au président de la Société Franklin en disant « Voilà, je viens d'ouvrir une bibliothèque, alors je voudrais bien participer. » Donc il a reçu des listes de bouquins, des machins, enfin tout ce qu'avait fait déjà la Société Franklin. Et il a travaillé de la même manière, mais à condition qu'il y ait d'abord une liberté des lecteurs, c'est-à-dire qu'il ne veut pas diffuser un catalogue. Il y a une liberté des lecteurs, il achète des livres bien sûr, enfin il fait acheter après lui, il ne s'en occupe plus. Hein. Mais il fallait que les lecteurs soient libres, pas question d'imposer une lecture. Et puis... essayer d'obtenir de la part des gens plus fortunés de déposer. Et il le dit, alors je vais vous retrouver des citations où en effet il dit, il y a suffisamment de gens qui ont les moyens pour déposer leurs livres. Et eux-mêmes en profiteront parce que du coup ils auront les livres des autres. Avec l'idée que tous les gens qui sont sortis de l'école à 12 ans ou même à 15 ans ont besoin de continuer à s'instruire. Voilà. Je vais revenir un peu en arrière. Est-ce que vous connaissez le pasteur Bretaignier ? Ça ne vous dit rien. Je ne vais pas vous dire grand-chose parce qu'en effet, il n'est pas. Mais le pasteur Bretaignier, Massé en parle souvent, parce qu'il a fait, lui, c'est dans le Doubs, il a créé une revue, Le Lecteur, Organe des Bibliothèques Populaires, dans lequel il parle des livres. Il fait des critiques de livres, il incite les gens à voir des livres, la première revue bibliographique, hein, avec comme devise, tous pour chacun, chacun pour tous. Sa revue, elle a duré 3 ans. Hein. Il y avait un abonnement, mais ça n'a pas été suffisant, donc il était obligé d'arrêter, faute de moyens. Mais quand je l'ai consulté, c'était remarquable, parce qu'il surveillait tout ce qui sortait, et il en faisait une critique, disant à qui ça pouvait aller, etc. C'est très très beau. Alors Bretaignier, si Girard ne le connaissait pas, Perdonnet le connaissait. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment, la Cité Franklin était tout à fait au courant de ce que faisait ce pasteur, tout seul, dans son coin, mais il avait une diffusion de sa revue. Et c'est vrai qu'il a annoncé dans sa revue qu'il y avait un monsieur Massé qui était en train de créer une bibliothèque dans le Bas-Rhin. Ce que j'ai vu dans le travail et dans le retravail que j'ai fait, c'est qu'il avait une façon, sans doute plus que la Société Franklin et que Girard tout seul, bien sûr. Il a utilisé complètement ce qui s'appelait à l'époque la propagande. Hein, la propagande n'ayant pas le sens péjoratif de maintenant, la propagande c'était l'information par des moyens de communication. Bretaignier avait commencé, et c'est vrai que tout ce qui était Société Bibliothèque Populaire, à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, ils invitaient la presse, ils envoyaient un truc à la presse le diffusait, et c'était très très connu. Moi, c'est comme ça que j'avais trouvé les débuts de la ligne d'enseignement. En consultant une presse, c'était énorme, énorme. Sauf qu'évidemment, il y avait toujours la police qui était derrière. Des fois qu'ils y fassent des choses pas bien. Alors en plus, très rapidement, l'Église catholique a compris que c'était très mauvais ça. Parce que Massé, quand il loue, dit toujours surtout jamais, jamais d'opinion religieuse ou politique. Il faut que ce soit neutre. Il ne parle pas de laïcité encore, mais il faut que ce soit neutre. Et ça, l'Église, elle supporte très mal. Dupanloup a fait des textes, carrément des opuscules, sur cette œuvre impie, enfin, qui allait dévoyer les gens, etc. Donc il y a eu vraiment des conflits, et Massé répond. Et donc, cette société bibliothèque se développe. Il y a un certain nombre de bibliothèques qui se créent dans beaucoup d'endroits. Alors, jamais dans les très grandes villes. C'est vrai que Paris est un peu à part, et les autres, mais surtout dans tous les endroits où il y avait de l'industrie. Les industriels ont pas mal financé ce genre de choses. Bon, il ne faut pas oublier que les industriels à l'époque, bon, genre Michelin, Creusot, etc., ils avaient des ouvriers qui arrivaient, et pour eux, créer une bibliothèque, c'était les empêcher d'aller au café. Et là, en plus, pour les jeunes filles. Donc c'était ouvert aussi aux jeunes filles, parce que ça les empêchait d'aller se prostituer. Enfin, c'est pas prostituer à cri, bien sûr, mais d'avoir des mauvaises mœurs. Ils avaient des ouvriers qui étaient plus efficaces et qui s'instruisaient, donc ils s'avaient déjà compris. Je dis déjà parce que j'ai l'impression que c'est pas encore compris maintenant, qu'un ouvrier instruit travaille mieux qu'un ouvrier pas instruit. Donc, dès 1866, donc 4 ans après, Jean Massé va en Belgique, il a des contacts, il a continué à voyager beaucoup en Belgique, et découvre qu'en Belgique, ils ont une ligue de l'enseignement. Donc, il demande à Charles Buls, qui est donc le président de l'enseignement allemand, est-ce que c'était d'accord, ils se tutoyaient tous à l'époque, c'était très drôle, le courrier, est-ce que t'es d'accord, j'ai envie de faire la même chose en France. Mais oui, bien sûr, dit l'autre. Et il crée, en 66, un projet d'établissement d'une ligue de l'enseignement en France. Le premier bulletin date du 1er décembre 68. Avec toujours la bibliothèque qui est prévue, puis d'autres choses aussi, et toujours le développement de l'enseignement et l'ouverture d'un enseignement gratuit qui commence déjà à apparaître. À ce moment-là, en 68, se crée un cercle parisien animé par Emmanuel Vaucher, V-A-U-C-H-E-Z, qui est un gars très important, mais on ne trouve pas grand-chose sur son histoire. Il travaillait avec Massé, c'est lui qui a pris la direction de ce cercle parisien. Tout le monde le cite, mais il était un monsieur discret. Et donc, cette idée-là, l'idée très forte de tous ces gens-là, Massé, Boucher, qui était vraiment son second, c'est de ne surtout pas faire une association. Parce qu'à l'époque, les associations étaient quand même interdites, puis après, elles ont été de plus en plus interdites. Ça a été un mouvement. Et jusqu'en 1878, ça a fonctionné avec plusieurs milliers d'adhérents, mais ce n'était un mouvement, donc l'État ne pouvait rien. Je ne suis pas juriste, mais je suis très effarée par cette préscience, quoi. Se doutant que ça allait mal se passer. Bon, lui, il s'était blackboulé au moment de la Révolution 48. Et donc, il crée ce cercle parisien. Et donc, le cercle parisien, c'est une des sociétés au mouvement de la Ligue de l'enseignement en France. Voilà. Mais il n'y a pas de ligue créée, il y a un mouvement. Les mouvements peuvent gérer des sous, etc. Ils n'ont aucune presse. Et ça, je l'ai trouvé dans les archives de la police. Ils sont très, très enquiquinés parce qu'ils ne peuvent rien faire, quoi. Ils peuvent rien faire. Quand il y a des réunions, il y a toujours un policier. Je retrouvais dans les archives de la police, on a vu un tel, on a vu un tel, on a vu un tel. Ben, tous les gens qui étaient un peu cités, ils les repéraient. Mais c'est tout. Et donc, la Ligue de l'enseignement, démarrage chèque parisien. Alors, il y avait des cotisations, hein, il y avait de l'argent. Donc, il devient presque un central de librairie. Il a des livres, il propose, comme faisait la Société Franklin, il propose d'envoyer les livres, il propose de les couvrir. Les libraires à l'époque, ils ne diffusaient pas comme ça. Le livre, il arrivait sans rien. Il fallait commander une reliure. Les années 60, c'était de la toile bisonne. C'est-à-dire une grosse toile pour protéger le livre. La Société Franklin faisait pareil. Alors, la Société Franklin, qui s'est développée en parallèle, mais ils se connaissaient, ils avaient des relations proches. La Société Franklin a fait tout de suite un catalogue. La grande différence avec Massé qui n'en voulait pas, mais c'était lui qui disait « moi j'en veux pas ». Les gens sont libres et donc je ne veux pas imposer une lecture. Donc la Société Franklin faisait un catalogue qui a servi. Jean Massé plusieurs fois dit « je me suis servi du catalogue parce que des gens me demandaient de monter une bibliothèque, donc je me suis servi du catalogue de Société Franklin ». Mais c'est les gens responsables de bibliothèque qui choisissent. La Société Franklin, j'ai retrouvé des courriers qui disaient que la Société Franklin, si quand vous commandiez des livres qui était en dehors de son catalogue et qui s'estimait que ce n'était pas bien, il ne livrait pas. Tandis que là, le cercle parisien, devenant une espèce de librairie, fournissait tout ce que les gens demandaient. Et la grande force de Massé, Enfin, quand je dis Massé, c'est plus Massé, c'est devenu un groupe plus important. C'est d'autoriser de faire le prêt à domicile et d'autoriser les romans. Ça, ça a été dès les années 1866-67, on trouve. Le pasteur Bretigny déjà en parlait. Doit-on donner des romans ? En 1864, Jean Massé dit « Il faut en prendre son parti et bien se dire que l'important pour aujourd'hui, c'est de répandre l'habitude de la lecture. Qui a lu, lira. » Tandis qu'en effet, la Société Franklin, nous rappelons en bibliothèque que la Société Franklin, tout en consentant volontiers à leur fournir les mêmes remises des ouvrages non compris sur ses catalogues, ne saurait sous aucun prétexte leur prêter son concours et les faire bénéficier de ses avantages pour l'acquisition des livres d'une moralité douteuse. Nous avons été étonnés de lire récemment sur quelques listes d'achats qui nous ont été adressées des titres de romans que nous jugeons détestables. Ça, c'est 1885. C'est vrai que dès qu'une bibliothèque est établie dans un village, les premiers livres que demandent les lecteurs, ce sont des romans. Après les romans, ce sont des voyages. Après les voyages, les ouvrages d'histoire. Quand toutes ces phases ont été parcourues, on peut dire que le goût de la lecture est implanté dans la population. Toute l'Europe rend hommage au talent et à la moralité des romanciers anglais, et partout on est heureux d'admettre leur production dans les bibliothèques populaires. C'est l'appât avec lequel on attire les lecteurs. Alors j'ai toujours vu que ces livres, les bons romans, n'ont pas seulement pour effet de délasser l'esprit en l'amusant, pour peu qu'on en abuse, et l'abus suit vite l'usage, ils dégoûtent des lectures servières, qui seules sont saines et utiles. Quelques conseils sur le choix des romans, ça c'est les bulletins de la Société Franklin. Au grand désespoir de notre bibliothécaire, les romans entrent pour une grande proportion dans le nombre de volumes prêtés. Cependant, la proportion en a diminué. Je dirais volontiers quant à moi, lisez, lisez, il en restera toujours quelque chose. On ne doit pas craindre dans les premiers achats de faire une lâche part aux livres de récréation. Je reprends ça parce que je trouve que c'était vraiment très fort. Quand j'ai commencé là-dessus, je voulais trouver un peu comment ça fonctionnait. Donc, pour Massé, il était conservé par la police, c'est bon. Vaucher aussi, c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passait dans les bibliothèques ? Donc, en tant que documentaliste, j'ai été tenace et j'avais trouvé à la Bibliothèque nationale des fiches, le catalogue de noms bizarres. Donc, je les demandais et on me répondait, on trouve pas. Enfin, je ne trouvais pas. Donc, j'ai fini par aller voir le conservateur en disant, moi, je veux ce livre. Donc, on m'a dit, bon, ben, venez. Et on m'a emmené dans les magasins. Et j'ai retrouvé, à la Bibliothèque nationale, vous voyez, j'ai retrouvé des catalogues, des petits catalogues de bibliothèques dans des enveloppes en craft, tous mélangés. Donc j'ai sorti ça et c'est vrai que j'ai exploité, je ne sais plus maintenant combien de catalogues, j'ai pu retrouver, faire des petites statistiques. Je dis bien, ça n'a pas vrai valeur de statistiques, ça a l'air de sondage, parce que je ne sais pas combien j'en avais. Mais j'ai pu retrouver, et ces catalogues, des petites merveilles, dans les marges, les bibliothécaires marquaient « n'est pas aimé », « trop demandé », « acheter un double », enfin, ils marquaient des commentaires sur les lecteurs. Donc c'est avec ça que j'ai pu en effet tirer des conclusions sur ce que lisaient les gens. Et c'est vrai que le problème, très vite, il n'y avait pas beaucoup de livres, très rapidement, les gens avaient fini à lire. Les livres sortaient 4 fois, 5 fois, 6 fois par an. Et c'est vrai que les gens, quelquefois, arrivaient, il n'y avait plus de livres sur les rayons. Dans certains commentaires, je trouve, c'est drôle, il y a les livres de, je ne sais pas quoi, physique qui sont sortis, mais c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas d'autres, il n'y en a plus d'autres des livres, donc les gens se mettent à prendre autre chose. Je vous parle de ces catalogues parce que, bon, j'étais très content de les avoir trouvés, j'ai passé presque un an dessus quand même. Et puis, quand j'ai préparé cette édition, j'ai dit, bon, maintenant, il faudrait que j'ai des références un peu plus exactes, la Bibliothèque nationale a déménagé, ils ne sont pas foutus de me dire où ils sont. Alors, j'en ai parlé avec Agnès Sandras, bien sûr. Et donc, je lui ai dit, c'est pas possible, voilà, ma liste, avec la cote que j'avais à l'époque. Cette cote-là n'existe plus, elle a failli transformer. Donc, elle a fini par aller voir. Elle dit, oui, il y en a encore, mais ils m'en ont donné 4 ou 5. Moi, j'en ai 45. Et moi, j'avais dit à la conservatrice, est-ce que je vous classe dans les enveloppes et je mets des choses sur les enveloppes ? Oui, ils n'ont pas tenu compte de ça. Et voilà, c'est-à-dire que maintenant, je me dis, je serais ravie que des gens viennent et demandent tel catalogue. Parce que c'est pas possible qu'ils les aient perdus. Mais c'est vrai que j'avais travaillé là-dessus et c'est, je pense, ce qui fait un peu l'originalité de mon travail. Et donc, je peux vous dire ce que les gens en prêtaient. Donc, j'ai fait une petite statistique. Les choix les plus souvent cités sont les romans d'Herman Jatrien, de Jules Verne, de Walter Scott, de Fenimore Cooper, d'Alexandre Dumas et pour les enfants, ceux du capitaine Maineret. Alors, j'ai été chercher. Le capitaine Maineret, c'était des romans d'aventure qui était très très connu, maintenant évidemment, et de Madame Caro, Voilà. Donc ça, c'était ce qui sortait tout le temps. Et parmi les périodiques, il y avait donc le magasin pittoresque et le tour du monde. Et puis la bibliothèque des merveilles. Et là, je tombe sur une citation. Un bibliothécaire à la bibliothèque de la Ligue d'enseignement de Mazamet, dans le Tarn, écrit quelques mois après son ouverture, ça c'était donc en 72, « Les ouvrages les plus lus, il faut bien le dire, sont les romans, mais nous n'avons que des bons. » La personne chargée de la bibliothèque s'occupait aussi des assemblées générales. Et c'est vrai que ça, c'était envoyé au bulletin de la Cité Franklin. Et puis après, au bulletin de la Ligue. Et c'est vrai que les gens qui ont travaillé un peu là-dessus n'ont travaillé que là-dessus. Les bibliothécaires, comme tout rapporteur, mettaient ce qui était bien quand même. C'est, les romans sont lus, mais ce ne sont que des bons. Bon, est-ce que ce sont des bons ? Ça a fait que le fait que très rapidement les gens avaient tout lu, ces bibliothèques populaires, y compris celle-là, ces bibliothèques populaires ont perdu leurs lecteurs. Et pourquoi ? Parce qu'en même temps, au niveau industriel, progrès, etc., hein, il y a eu en même temps le progrès de l'imprimerie, les rotatives, Hachette qui s'en mêle et qui fait des livres pas chers. Donc très rapidement, les gens achètent des livres. Ils achètent des livres parce qu'il commence à y avoir une vraie édition qui sort. Et donc, ils vont plus à la bibliothèque, ils ont tout lu de toute façon. Et c'est vraiment une des raisons de la... J'ai travaillé sur ces bibliothèques jusqu'en 1881, parce que c'est fini, elles ferment. Les animateurs ne sont pas renouvelés. Les gens qui prennent en charge ça n'ont pas nommé de successeur, si je puis dire. Elles disparaissent. Alors, les bibliothèques d'administration aussi, hein, disparaissent. Et c'est vrai que les bibliothèques municipales qui existaient déjà après l'arrivée de la Troisième République, l'instruction publique obligatoire, etc., se sont mises, mais il leur a fallu 20 ans, hein, 1905-1910, se sont mises à ouvrir le soir, les jours de marché, à faire du prêt, des choses comme ça. Donc c'est comme ça qu'on peut dire les bibliothèques populaires sont les ancêtres. Non, toutes les bibliothèques existantes avant cette petite période des bibliothèques populaires, c'était des bibliothèques qui étaient d'abord faites pour conserver les livres. C'est pas pour rien que les bibliothécaires chefs s'appellent des conservateurs quand même. C'est conserver les livres. Donc la lumière, ça les abîmait, le prêt à domicile, ça abîmait les livres. Donc c'est vrai qu'ils ont mis du temps à accepter de laisser sortir les livres. Et puis, ouvrir aux gens, ils ont découvert qu'en effet, si on ouvrait la bibliothèque les jours de marché, il y avait du monde. Mais du coup, ça fait presque trop de monde. On n'a plus le temps de faire le catalogage. Alors, je suis méchante avec les... mais c'est quand même ça. Hein. Quand on a le nombre de fois où j'ai même eu des... Parce que j'ai fait beaucoup de formations bibliothécaires aussi. Mais alors, quand est-ce qu'on travaille ? Eh bien, vous débrouillez. C'est le lecteur avant. Alors, c'est vrai que dans ces bibliothèques populaires, ça a été leur force. Alors, c'est là qu'on va passer des images. Donc ça, c'est une gravure. Alors, c'est vrai que j'ai regardé les bibliothèques comme professionnelles, là, à ce moment-là. Hein. Et les livres sont forcément classés par ordre d'arrivée, pas du tout par matière, puisqu'ils se suivent. Quand vous allez actuellement dans les bibliothèques municipales, où c'est classé par domaine, il y a forcément des trous pour laisser la place aux nouveaux. Donc là, ils sont classés par ordre d'arrivée. Ils ne sont pas accessibles au public, on le voit bien. Non seulement il y a un comptoir, mais il y a même une échelle avec quelqu'un qui doit monter dessus. Et puis, les gens attendent. Alors, on voit qu'il y a quelques femmes, il n'y en a pas beaucoup, surtout des hommes et des enfants, des garçons. Alors, ce qui se passait, c'est que ce public, donc, était là, un public ouvrier, était un public de lecteurs, et surtout, à l'époque, les enfants étaient importants parce que c'est souvent eux qui faisaient la lecture. Au début, dans les années 64, 65, 66, c'était les enfants qui faisaient la lecture. Les adultes ne lisaient pas assez bien. Donc c'était l'enfant scolarisé qui faisait la lecture. Alors, Jean Massé a sorti en 1865 quelque chose qu'il a appelé la leçon de bibliothèque. Je vais me permettre de le lire. L'usage des catalogues imprimés, qui commence déjà à se répandre, contribuera puissamment, sans aucun doute, à développer le goût de la lecture, en mettant sous les yeux des habitants la liste des livres qui sont à leur disposition. Une liste ne suffit pas néanmoins. L'espèce de curiosité vague qu'elle éveille n'est pas à comparer avec l'intérêt que peut inspirer un livre que l'on a entendu juger, dont on connaît le contenu. Pour les livres d'instruction surtout, livres d'agriculture, de sciences, d'histoire, de littérature, dont le placement demeure encore, au dire du grand nombre de bibliothécaires, assez difficile, un aperçu général de ce qui s'y trouve, quelques explications préalables, une page lue ça et là, réussirait bien souvent à faire naître l'envie de le lire. Il serait facile de passer en revue dans une seule séance plusieurs volumes, en les choisissant de même nature, et tous les hommes instruits de la commune, à n'importe quel titre, les agriculteurs aussi bien que les autres, pourrais venir en aide à l'instituteur dans cette tâche qui n'est pas bien formidable, rendre compte à ses voisins, le livre à la main, des lectures qui vous ont paru profitables, de façon à les renseigner d'avance sur le profit qu'ils pourraient à leur tour en tirer. Je ne crois pas affirmer que partout où s'établiront des conférences de ce genre, les livres d'instruction des bibliothèques cesseront bientôt de dormir sur leurs rayons. Alors il appelle ça les centres de bibliothèque, je dis dans mon texte que ça, c'est une formule qui n'a pas eu de succès du tout, on n'a pas entendu parler, mais je trouve qu'il est génial. Et alors, par rapport même à ce qui se passait aux amis d'instruction, c'était le fait qu'il parle aussi pour les campagnes, et il parle des agriculteurs, il parle d'un certain nombre de gens qui n'étaient pas les gens de la ville. Et il dit dans d'autres textes que tout le monde peut lire, y compris des gens, même s'ils ne sont pas très cultivés. Et il va créer après avec ça des conférences, alors qui ont été faites aussi. Les gens se réunissent pour entendre parler d'un livre, ils lisent, ils rapportent. Alors il y a quelques dessins dans certaines revues où ils sont là, ils rendent leur livre et puis ils en disent des choses. Il y a le bibliothécaire aussi qui, quand il a des adolescents qui lui rendent des livres, pose des questions à l'adolescent pour être sûr qu'il a bien compris, qu'il est là pour les aider à avoir compris ce qu'ils n'ont pas compris. Ça ne se fait pas encore, hein. Donc cette volonté, toujours, d'instruire. Alors, je vais vous lire, là c'est Gilles Franklin qui a publié ça, quelques recommandations pratiques sur les soins à donner aux livres. Et c'était diffusé gratuitement par Gilles Franklin aux bibliothécaires qui demandaient des livres. On lit toujours avec peu de plaisir un volume sali, décousu, à feuillet froissé ou déchiré. Mais comme les livres dont on a soin demeurent, après de très nombreuses lectures entiers, nets comme neufs, il dépend des lecteurs de les maintenir en ce bon état de conservation. Les précautions suivantes leur sont à cet effet recommandées. Tenir les livres lorsqu'on les lira, revêtus d'une couverture. Couper avec grand soin, s'il se peut, au moyen d'un couteau à papier, les brochures pour lesquelles cette décoration sera nécessaire. Pas oublier qu'à l'époque, les livres étaient pliés, hein, il fallait les couper. Autant que possible, lire en ayant le livre placé devant soi, sur une table débarrassée de tout ce qui le pourrait salir. À défaut d'emploi d'une table, tenir le volume tout ouvert en la main, évitant d'introduire à l'intérieur un doigt qui ne manquerait pas d'en souiller les feuilles, évitant ainsi de le replier sur lui-même, le dernier feuillet renversé sur les premiers, ce qui le briserait dès une première lecture. Ne point marquer au moyen d'un pli, ou comme on dit, d'une corne, la page à laquelle on s'est arrêté. Une marque est inutile au lecteur attentif. Celui qui croira devoir en faire usage placera dans le volume une petite bande de cartes ou de papier. Ne jamais tourner les feuillets en les froissant avec un doigt mouillé. Prendre garde qu'il ne soit fait ni écriture, ni tache, soit sur les couvertures, soit à l'intérieur des livres, que l'empreinte des doigts notamment n'y soit plus remarquée. Renfermer le volume dans un meuble aussitôt après chaque lecture. Ces soins observés serviront à tous. Alors c'est vrai qu'en même temps, ça montre que le livre n'était quand même pas un objet courant. Donc il y a une explication de ce qui se passe, mais c'est vrai que moi je trouve ça assez merveilleux quand même. Voilà. Donc je développe là-dedans comment fonctionnait les bibliothèques avec des chiffres, avec etc. Il y a eu des grosses difficultés au moment d'Ordre Moral, en 1870, en 1878, où là il y a des bibliothèques confirmées, beaucoup de bibliothèques confirmées, des gens expulsés, des gens emprisonnés. Ça a ralenti un peu beaucoup de choses quand même. Après, toutes les forces se sont mises sur la défense de l'enseignement. C'est-à-dire que la Ligue de l'enseignement a développé, alors pas avant 1881, elle a été officialisée en 1882. Ils ont fait en 1870 une pétition, 1872, une pétition pour l'avènement de l'enseignement public, gratuit, obligatoire. Et pour ça, ils ont fait une pétition où les gens signaient. Il y a eu plus d'un million de signatures. Mais ils demandaient à chaque signataire de déposer un sou. Et donc, ils ont apporté à l'Assemblée des sacs. Il y a des articles qui parlent du poids des sacs qu'ils apportaient. Et c'est vrai que l'Assemblée a voté, en effet, l'enseignement, donc un passage de 1880. Et donc, ça a été la bataille principale, arriver à faire de l'enseignement gratuit, obligatoire. Et c'est à partir des années 75 qu'on a commencé à parler de laïque. Donc, c'est vrai que tout ce mouvement des bibliothèques populaires dont je parlais là un peu mal, c'est vrai que ça a débouché sur cette grande lutte pour l'enseignement. Jules Simon qui arrive, qui fait les lois pour l'école, etc. C'est là que les bibliothèques municipales prennent ce qui était bon dans les bibliothèques populaires et disent bon, on est la suite. Alors, une autre gravure qui est plus ancienne, il n'y a pas de dame, Il n'y a que des hommes et des enfants. Et puis les messieurs, vous savez vraiment clair de notaire, hein, c'est pas... Alors ils disent, à la campagne, et Massé le dit dès le départ, à la campagne, l'instituteur est bien placé. Mais c'est vrai que même la Cité Franklin parle d'un commerçant, quelqu'un qui a l'habitude du public, pour tenir les livres, hein, quelqu'un qui a l'habitude du public. Il faut tenir des registres. Alors, il y avait, pour un travail bibliothécaire, c'est ce que j'ai regardé de très près en tant que professionnel, un vrai travail qui a été inventé pour faire le prêt, parce que le prêt, c'est bien beau, mais il faut l'enregistrer, etc. Donc, il y avait des cartes de lecteurs, il y avait un répertoire que tenaient les bibliothécaires pour voir les entrées et les rentrées, et puis, il y avait un registre général avec, en même temps, un endroit matière. Et c'est vrai que ça leur a permis de tenir des statistiques. Et ces documents-là leur étaient vendus très peu. Hein, ça a été la Cité Franklin distribuait un certain nombre de formulaires de façon qu'ils aient des choses toutes prêtes. Par contre, j'avais regardé un peu les catalogues avec les fiches, c'était pas du tout les règles. Il y avait un titre, toujours, un auteur parfois, l'éditeur jamais, la date jamais. Enfin bon, j'ai été très étonnée de trouver tout ça. C'est-à-dire que la Cité Franklin et puis la Ligue de l'Enseignement, le Cercle Parisien diffusaient les outils pour que les gens s'occupent bien des livres. Que les bibliothécaires qui n'étaient pas bibliothécaires, qui étaient payés moyennement, pas beaucoup, comme une petite subvention, qui était autre chose, quoi, hein, qui géraient donc le prêt. Et apparemment, il y avait très peu de pertes. Il y a des livres abîmés, oui, parce qu'ils sont trop lus, mais des pertes, il n'y avait très peu. Alors, je ne vous ai pas parlé des femmes aussi. C'est vrai que Massé, il a dit tout de suite que les femmes devaient être dans le conseil d'administration. Bon, il n'y a pas eu beaucoup. Mais lui, c'est mademoiselle Virénel, hein, il l'a amené chez le maire, hein, et ils ont fait le conseil d'administration avec, donc il y avait une femme, hein, il y avait une femme. Il y a eu un grand travail pour les femmes, avec ouverture à certaines heures pour que les femmes puissent venir, des prix moins chers, alors ça, la Ligue d'instruction faisait aussi des prix moins chers pour les femmes. La Ligue a même mis en place des bibliothèques pour femmes, tenues par des femmes. Les bibliothèques sont mises à faire des conférences, donc là c'est carrément les amis d'instruction. Donc j'ai trouvé un ticket pour une conférence sur Benjamin Franklin. Voilà, donc c'était tamponné, etc. Et les gens payaient pour aller à la conférence. La Ligue de l'enseignement faisait des conférences gratuites.
Ça ne se passait pas dans la bibliothèque, c'était au théâtre.
C'est une conférence dès la bibliothèque.
Pourquoi payer? Parce qu'il fallait aussi payer.
Non.
Si, à Grenelle, il y avait un local, c'était 127 rue Lecourbe.
Oui, mais il n'était pas grand.
C'était justement fondé par le monsieur, là, dont moi
j'ai fait. C'est ça. Donc, même en 1877.
C'était vraiment le lieu de réunion, il devait être relativement neuf à cette époque-là, et c'était,
oui, mais l'utiliser. En 1870, les conférences, en général, ils essayent de les mettre à l'extérieur pour que les gens puissent venir sans forcément rentrer dans la bibliothèque.
Oui, c'est ça, il y avait de la place. Voilà.
C'est ça.
Oui, bien sûr.
De même qu'ils ont fait des excursions. Donc, il y a eu Massé, dont j'ai déjà parlé, qui était franc-maçon, bien sûr, mais surtout, il a beaucoup travaillé avec la Ligue, il a beaucoup travaillé avec la Belgique, il a écrit plein de choses. Et surtout, ils travaillaient avec Hetzel. Hetzel, éditeur. Ils se sont connus jeunes. Massé, Hetzel et Hachette, c'est des gens qui se destinaient à l'enseignement. Mais avec les problèmes en 1830 avec l'école normale, ils ont fait autre chose. Ils se sont retrouvés parce qu'ils avaient fait Stanislas, etc. Enfin, c'est des copains, quoi, des copains d'école. Et Hetzel, qui a beaucoup écrit sous le nom de Stahl, qui était né à Chartres, s'est associé très vite avec Massé. Mais il a commencé à publier en 1843 un journal pour les enfants, mais il s'est avec Jean Massé. Massé fait qu'il a vraiment orienté son travail vers un public populaire. J'ai trouvé des courriers où il accepte de ne pas faire payer, parce que Massé lui dit « je ne prends pas de droit d'auteur si tu fais des livres moins chers ». Hetzel, qui faisait des beaux livres, hein, a fait un certain nombre de livres peu chers. Alors, c'était même pas les gens, pour que les bibliothèques puissent l'acquérir. Hein. Et il a développé le magasin d'éducation et de récréation que vous avez là, qui est donc une revue où passaient les feuilletons de Jules Verne. Lettre de Massé à Hetzel. Je suis bien gentil, je t'écris à Bruxelles, bureau restant. Bon, si une lettre arrive trop tard, ce ne sera pas de ma faute. Donc, ça veut dire qu'il ne lui a pas donné son adresse. Voici mes vacances qui vont finir et mon repos qui va commencer. J'ai trouvé en arrivant un mot de Maréchal qui demandait de la copie pour la 16e livraison. Je vais lui envoyer dans quelques jours et j'espère bien que ma fichue tête va se remettre à ses serviteurs, il est en train d'écrire les serviteurs de l'estomac, que je sers si mal. Après la 16e livraison commencera une autre série, Les Mouvements. Alors, ne manque pas au moins de venir ici le mois prochain, ce sera une bonne chose de remontrer ton grand beau nez à ma femme et à Mademoiselle Vérédec. Alors je suis bien contente de ton traité Hugo et de ta consolation de Bruxelles. Tes embarras me traînent dans la tête et me rendent plus malheureux que je ne voudrais parce que j'ai le souci anti-littéraire. Je sais bien, je suis bien la plus mauvaise machine à phrases que je connaisse. Quand elles ne sont pas toutes seules, je ne suis pas fichue de les faire. C'est Massé qui parle. J'ai idée pourtant que la fabrication va remarcher cet hiver. Je commence à m'ennuyer de la paresse. C'est bon signe. Alors, Mademoiselle Caroline Vérenet, patronne du petit château où enseignait Massé, écrit à Hetzel, « Cher oncle, si vous ne venez pas, je croirai que vous n'aimez plus votre nièce, ni ses enfants, ni son petit château. Il faut absolument que vous veniez si vous ne voulez pas nous désoler tous. » Alors, signature de Massé en 62, « Adieu vilain papa grognon, petit nègre à toi Jean Massé, à Hetzel. » C'est pour dire qu'il y avait vraiment une grande communication. « Adieu chère vieille nourrice, ton nourrisson t'embrasse comme un simple mortel à la barbe de la postérité qui le contemple. » C'est là que j'ai trouvé que Jules Verne, qui écrivait ses romans en feuilleton, était un gros paresseux. Et donc il y avait des mots d'Hetzel, « Relance Jules ». Plusieurs fois, il y a des mots de Massé disant « On t'attend, on t'attend, on t'attend ». Massé était très très méticuleux, etc. Toute sa correspondance a été récupérée aux archives, elle est disponible. C'était vraiment des hommes qui avaient une même idée de défense, de l'éducation. Alors, lui, Hachette, il est né un peu plus tôt que les autres, mais pareil, il voulait être enseignant, pas d'école normale. Il se trouve avec sa mère et ses frères et sœurs à nourrir parce que son père était mort. Donc, il rentre chez un libraire. Après 48, participe à toutes les initiatives concernant la bibliothèque populaire. Alors, lui, ses initiatives, c'est quoi ? Envoi gratuit de volume, service de vente à tempérament, caisse de circulation, mais toujours persuadé de la nécessité de diriger les choix et même de développer une littérature populaire instructive pour un public. Mais Hachette était déjà dans quelque chose de réglé. Il finit par racheter la libraire. Bon, c'est un gars cultivé, un latiniste anglophone. Il a l'idée géniale, comme le chemin de fer arrive, demander aux différentes compagnies de chemin de fer, bibliothécaires de gare, et il fait une collection spéciale de petits livres, c'était des premiers livres de poche, mais petits livres, mais il dit bien que ces livres-là, ils sont faits pour être lus pendant le voyage et laissés sur la banquette quand on part. Pour lui, c'est pas quelque chose qu'on garde. Là, il n'a pas vu clair. Donc c'est pour là, et que surtout, d'autres puissent le trouver. Hachette était vraiment un très bon entrepreneur. Il est mort jeune, hein. Il est mort à 64 ans, et il avait déjà une maison, il avait formé son fils, sa fille avait épousé forcément un libraire. Enfin, c'est avec lui qu'est créé le métier d'éditeur. Avant, il n'y avait pas vraiment d'éditeur, il a libraire-éditeur, et il se met à choisir des directeurs de collection, etc. Enfin, c'est ce qui fait l'éditeur maintenant, quoi. C'est vraiment les premiers éditeurs, hein. À la mort de Hachette, en 1864, la maison Hachette est la plus grande maison d'édition française, européenne, et 10 000 m2 déjà. Voilà. En 20 ans de temps, il s'est fait une fortune, parce qu'en même temps, c'est un entrepreneur. Mais du coup, il s'est un petit peu heurté avec le côté Massé. Ils ont des échanges de lettres, tous les deux, parce que Massé dit que les gens sont libres, quand même, on ne va pas les obliger à lire. Alors, voilà.
Moi, j'avais une question à vous poser. Il était en Alsace. En 1870, donc il y a eu le passage vers l'Allemagne. Comment ça s'est passé ?
Eh bien, sa Caroline Vérenet, avec son pensionnat, le petit château, est revenue à Moutiers, dans l'Aisne. Et c'est vrai que sur les cartes, si vous regardez là, ça c'est la carte des bibliothèques avant la guerre de 70, et ça c'est après la guerre de 70, avec une France. Il y a la liste des bibliothèques, il y a des cartes des bibliothèques, l'implantation des bibliothèques. Et là, j'ai donc la liste de toutes les bibliothèques que j'ai pu repérer. Toutes les bibliothèques qui étaient en contact, soit avec la Ligue d'enseignement, soit avec la Cité Franklin. Puis, à la fin, en 1881, donc, la reconnaissance officielle, l'arrivée de la République, Gambetta, Jules Ferry, tout ça fait que tout le paysage change. Hein. Mais, sans doute, ce petit moment des bibliothèques populaires a participé à ça.
Il y avait à peu près combien de livres dans ces bibliothèques ? Parce que vous dites que parfois,
Ça pouvait être 100, moins de 100. Alors, comme il y avait 20 lecteurs, au bout d'un an, c'était fait. Ils avaient tout lu. Il y avait beaucoup de bibliothèques où, les premières années, les lecteurs avaient tout lu. Les fameux bibliothécaires, créés dans leur rapport, Ben, il ne reste plus rien sur les rayons, donc les gens repartent, bien sûr, parce qu'il n'y a plus rien sur les rayons. Ils lisaient tout. Les livres avaient une rotation qu'on n'a jamais vue dans aucune bibliothèque, parce que c'était vraiment 7 fois, 8 fois, 9 fois par an. Ils sortaient. Par contre, ce qui était particulier dans ces bibliothèques, c'est qu'elles prévoyaient dans leur administration de pouvoir racheter des livres dès qu'ils avaient publié le catalogue. C'était une des premières choses qu'ils faisaient, ils publiaient le catalogue, comme il le dit dans sa leçon de bibliothèque. Massé dit, faites le catalogue, vous trouverez bien un notable qui va vous l'imprimer. Donc il y avait des catalogues imprimés, c'est ce que j'ai consulté. Et c'est vrai que du moment qu'un livre était dans le catalogue, il avait été choisi pour être dans le catalogue, donc il devait y rester. S'il était abîmé, on le rachetait. C'est tout à fait anti-bibliothéconomique comme principe, et donc il restait. Les bibliothèques populaires communales qui ont abouti à la Ligue de l'enseignement, c'était vraiment dans la campagne, dans la petite province, etc.
Il y a quelque chose de complètement différent entre l'Alsace et la Bretagne.
Tout à fait.
Enfin, je ne sais pas, encore dans les années 60, je vous assure que chez n'importe quel agriculteur de campagne bretonne, il n'y a que West France, c'est tout.
Je sais bien, mais c'est pour ça, c'est dommage.
Moi, je n'ai jamais vu un livre, même pas de livre, même les livres de classe, ils restaient à l'école, les enfants, ils ne venaient jamais à la maison.
Des gens qui ont écrit leur mémoire en Auvergne, ils expliquent qu'il n'y a pas d'ouvrage de tout chez eux.
Bien sûr, ça. Non, mais non, bien sûr.
Par exemple, le dictionnaire.
Vous savez, à partir. Dans les années 60, c'était déjà ça, c'était encore ça. Même à Paris, il ne faut pas croire que les gens avaient des livres.
Moi, je dis, non, ce n'était pas pareil à Paris. Dans des milieux aussi pauvres. Mais c'est tout à fait différent chez l'agriculteur et chez l'ouvrier.
Mais c'est pour ça qu'en effet, Massé, dans tous ses écrits, et après, je dis Massé, mais les autres aussi, sont vraiment préoccupés, étaient vraiment ailleurs. Alors que la Société Franklin, la Bibliothèque de l'Instruction, à part l'expérience de Girard dans sa petite commune de Lyon, là, mais sinon, c'était vraiment les villes. Hein. La lecture de la population rurale, ou même de la population ouvrière, a été vraiment prise en charge par les enseignements. Même les cathos, ils n'ont pas tellement pris en charge. Hein.
Pour les villages, il y a quand même des aspects religieux. Parce qu'on trouve des villes comme Dieu le fit, mais comme par hasard, il y a beaucoup de protestants. Donc on voit quand même que les protestants...
Les protestants, c'est une religion du livre. Hein. On a au moins la Bible. Le livre fait partie de la culture protestante. Hein. Les cathos, moi, on met son nez dans la Bible, c'était... Hein.
C'est une caricature de Jean Massé
Bargile,
qui visiblement aimait bien les bibliothèques populaires et on voit qu'il a sa plume derrière.
Oui, c'est ça.
Et il en a fait beaucoup sur des gens qu'on retrouve autour de la bibliothèque. Ouais. Je pense qu'il avait pas mal de bienveillance pour le mouvement.
Pour un certain nombre de gens de l'époque, c'était le scandale qui rentrait dans la maison. C'était le diable qui rentrait dans la maison, si on laissait les livres comme ça et que les gens puissent choisir leurs livres. Il y avait déjà toute la littérature. Zola, Hugo, Balzac, c'était des choses à éliminer, parce que ça pouvait donner de mauvaises idées. Mais ça a beaucoup changé, et puis l'arrivée de l'instruction, l'école, ça a bien démarré, puis ça a été cassé en partie par la guerre, évidemment, et ça a repris autrement après. Avec quand même une place importante de la culture, l'éducation populaire, qui a été recassée par la guerre de 40. Mais c'est vrai que toute la partie du Front populaire a été seulement éducation populaire. On commence à officialiser le fait que tout le monde a le droit à la culture et tout le monde peut participer à la culture.
Peut-être en écho à votre exposé, on peut signaler donc que parmi les conférences qui sont écoutables en ligne, il y en a une sur Jean Massé. Donc ça serait intéressant de la réécouter maintenant à la lumière de ce que vous nous avez dit ce soir. Il y en a plusieurs sur Hetzel, avec son rôle de commanditaire de textes de grands auteurs pour la jeunesse. Et puis il y a eu dans le colloque de 2014 une conférence de Bruno Lizen sur les bibliothèques populaires en Belgique.
Ah oui.
Et il fait allusion aux relations entre la Ligue de l'enseignement belge.
Oui, l'exemple est belge.
Et alors, ça serait intéressant aussi de réécouter ça en se disant qu'est-ce qu'il y a dans les bibliothèques populaires belges qui est vraiment issu de la Ligue de l'enseignement et qu'on retrouve dans l'esprit de Jean Massé aussi.
Alors de toute façon, moi qui suis documentaliste, qui fait pas mal d'histoire de la documentation, c'est vrai que la documentation a été inventée par un Belge. La classification des images universelles, ce sont des Belges. Et Massé, tenait, il était journaliste au Journal de la République. Il allait pour tout parce qu'il faisait des conférences, il faisait des articles, etc. Il se déplaçait. Et quand il a lancé ses différents mouvements, à chaque fois, il y a eu tout de suite un écho de tous les gens qu'il avait côtoyés avant en tant que journaliste républicain à l'époque. Hein. Il en parle souvent à son copain, il lui écrit que quand il va lancer sa ligue, il espère bien qu'il sera là. Et le Charles Muls, il était là.
Vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit que Massé était franc-maçon. Mmh. Je crois qu'on peut dire, c'est autant on a une institution religieuse qui freine
la possibilité de... Oui, il freine pas, il l'empêche.
Lire n'importe quel livre qui s'appelle l'Église catholique, il faut le reconnaître à cette époque. On a une institution, on va dire, plutôt philosophique, qui, elle, pousse, au contraire, dans le sens de l'instruction, de la laïcité, finalement, qui anticipe quelque part ce mouvement. Par exemple, une chose qui est frappante, quand on regarde tous les présidents, après, de l'association philotechnique, sont tous francs-maçons. Léon Bourgeois, qui est un des francs-maçons les plus connus de son époque, avec le solidarisme et tout. Donc, il y a vraiment à creuser, c'est l'influence de la franc-maçonnerie comme aide, soutien au mouvement, à la bibliothèque populaire, à la ligue de l'enseignement.
Alors c'est vrai que Jean Massé s'est inscrit, mais il dit bien, je vais aller là-bas, ça sera plus facile. C'est pas par conviction, mais il y va parce qu'en effet, pour avoir un soutien officieux, mais fort. Quoi. Il était en Alsace, hein, quand il a été intronisé, là, il est tombé.
Cette histoire de mouvement, c'est comme une anticipation de ce qu'on appelle les partis politiques, quelque part. C'est-à-dire que...
Comment
se fait-il qu'ils reconnaissent la possibilité de mouvement alors qu'ils interdisent l'association à partir de 20 personnes?
Non, mais les associations étaient interdites à l'époque.
Oui, à partir de 20 personnes.
Dans les rapports des bibliothécaires, les gens, ils sont 19. Il ne faut pas qu'ils soient 20 parce que sinon, ils étaient contrôlés et ils étaient interdits. Donc, ils arrêtaient les adhésions à 19.
En plus, ce n'est pas des choses qu'on enseigne beaucoup. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire de mouvement qui était possible. Tout le monde sait que l'association n'est pas possible. Tout le monde connaît plus ou moins. Il y a le Chapelier, à partir de la Révolution française, d'ailleurs, c'est ça, qui va mettre un couvert. Il va falloir lutter contre ce couvert, etc. Ouais. Donc, c'est ça, l'émancipation aussi du droit d'association. Ouais. Mais alors, le droit de mouvement qui existe...
C'est parce que le mouvement n'est pas déclaré.
Il y avait les sociétés de secours mutuels qui étaient acceptées.
C'était pas vraiment des mouvements.
Il y avait les banquets.
Quand la franc-maçonnerie qui pouvait se maintenir, encore qu'elle était quand même contrôlée, hein, sous Napoléon Ier, Napoléon III, par, il mettait des grands maîtres choisis, ils s'émancipaient aussi quand même. Oui, sociétés de secours mutuels. Hein. Au départ, elles étaient sur des formes, disons, comment dirais-je, professionnelles. Mais très très vite, le pouvoir a dit non, ça va pas aller comme ça, parce que ça va faire des revendications. Il faut les faire sous des formes locales. Société de secours mutuel, par exemple, du 3e arrondissement. D'ailleurs, c'est pas plus mal, parce qu'on a retrouvé ça à la BAI. C'est-à-dire qu'il y avait des ouvriers, artisans, mais n'oublions pas qu'il y avait aussi des coiffeurs, toutes sortes de métiers. Et l'esprit de société de secours mutuel, c'était ça. C'est-à-dire, pas uniquement un corps de métier. Enfin, voilà, il y a eu tout un débat là-dessus.
Plusieurs fois, ils en sont sortis, parce qu'ils n'étaient que mouvement. N'empêche que Massé était repéré, je vous dis, j'ai consulté les archives de police, il est très souvent cité, mais en effet, on l'arrête jamais.
Il finit quand même par être sénateur.
C'était après, c'était la Troisième République déjà. Là, on est vraiment pendant la fin de l'Empire. Hein. Pareil, j'aborde pas du tout la partie de la République. Hein.
Il est allé à l'inauguration du canal de Suez.
Massé ?
Oui, il a été invité par
mais c'est pareil,
Ismaël Pacha, disciple d'Auguste Comte et franc-maçon, qu'il avait rencontré à l'exposition universelle.
Oui. Mais ça, c'était aussi, c'était après.
Ismaël Pacha, non, c'est 1867.
Ah oui,
et Ismaël Pacha avait fourgué à Jean Massé 500 exemplaires de son catalogue d'Égypte de l'édition pour qu'il les distribue aux bibliothèques populaires. Et en 1897, Jean Massé pleure parce qu'il en reste encore 300 dans ses placards avec la bibliothèque. Des amis de l'instruction du 14e, nous avions 3 exemplaires de ce catalogue et vous en avez un là-haut. Bon, on n'a pas réussi à le trouver.
D'accord.
On a commencé à chercher, mais on va le trouver. Ouais.
J'imagine Jean Massé, à qui on dit tu vas venir avec Victor Duruy pour l'inauguration du canal de Suez. Il y avait 150 Français, dont Jean Massé, mais tu vas nous fourguer 500. Et c'est un truc qui fait quand même 383 pages. Voilà. Et je ne sais pas si c'est un joli livre. Enfin, Jean Massé a des mots très gentils et il dit donc le vice-roi d'Égypte, jaloux de faire connaître son pays à la France autrement que par une exhibition, a distribué pour les bibliothèques populaires 500 exemplaires de l'Égypte à l'exposition universelle, un magnifique volume. Et il dit quand même, si vous en voulez, vous pouvez m'écrire, je vais vous les envoyer. parce que Ismaël Pacha fait partie de la liste des donateurs de la bibliothèque et je me demandais pourquoi il était arrivé là. Et en fait, parce qu'il avait donné des livres, mais je pense aussi parce que le fondateur de notre bibliothèque a fait le siège de Sébastopol et qu'Ismaël Pacha, en tant que citoyen turc, était à Sébastopol. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi vous, par exemple, vous n'avez pas Ismaël Pacha dans vos donateurs. Et pourquoi vous n'en avez qu'un exemplaire alors que nous, nous en avons trois. Je vous ai lu une partie. C'est dans les origines de la Ligue de l'enseignement, 1861-1870, édité chez Charpentier-Fasquelle en 1891,
ah oui, c'est ça.
De Jean Massé.
Oui.